Amen. Que le Seigneur réponde à cette prière. Vous pouvez vous asseoir.
Bonjour frères et sœurs, je suis Marcel Dongala de Saint-Denis. Si je me présente parce qu'il y a de nouvelles têtes, peut-être qu'ils ne me connaissent pas, mais un grand nombre de gens me connaissent déjà. Et pour moi, c'est une joie pour une mère de venir toujours voir sa fille. Vraiment, c'est avec joie que je suis là ce matin. Et nous voulons que le Seigneur puisse nous parler, nous tous. Parce que c'est un Dieu qui parle à ses enfants. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, tu es un Dieu qui parle à tes enfants par ta parole. Et tu veux le faire ce matin, maintenant Seigneur. Et tu as déjà commencé à le faire depuis le début de ce culte. Nous avons besoin, Seigneur, de ta parole comme nourriture pour nos âmes. Car l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Purifie toute chose en nous. Purifie aussi mes lèvres ce matin, car ta parole est sainte. Et maintenant, Seigneur, parle, car ton peuple t'écoute. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'évangile de Luc, au chapitre 23. Nous allons lire un passage que nous connaissons très bien. Luc, chapitre 23, nous allons lire à partir du verset 33 jusqu'au verset 43. L'évangile de Luc, chapitre 23. À partir du verset 33 jusqu'au verset 43. Nous lisons la parole du Seigneur pour sa seule et unique gloire. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres. Qui se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu ?» Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « Ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » C'est la parole du Seigneur. Souviens-toi de moi est le titre de notre méditation ce matin. Souviens-toi de moi. Ce titre est tiré du verset 42 de l'évangile de Luc, chapitre 23, que nous venons de lire. Souviens-toi de moi. Frères et sœurs, nous avons dans ce passage une histoire personnelle du salut, mais c'est aussi le modèle de l'histoire de notre propre salut. Nous voyons ici un grand exemple qui prouve que le salut est un choix personnel qui consiste en quoi ? Qui consiste à placer sa foi uniquement en Jésus-Christ. Il y a un cantique que nous chantons souvent. Mon Dieu, plus près de moi. Plus près de toi, Seigneur. C'est un cantique que nous connaissons très bien. Et beaucoup d'entre nous, nous chantons ce cantique. Mais vous pouvez chanter ce cantique, Seigneur, plus près de toi, sans réaliser. C'est lui à qui tu dis plus près de toi, c'est Jésus-Christ qui pardonne les péchés et qui donne la vie éternelle. Il y a dans ce récit, dans ce passage, deux personnes qui étaient plus près de Jésus-Christ sur la croix. Ils étaient plus près de Jésus-Christ sur la croix, physiquement, entre guillemets, pas spirituellement. Ils étaient plus près de Jésus-Christ sur la croix. L'un a compris que c'est Christ qui pardonne le péché et qui donne la vie éternelle, et l'autre n'a pas réalisé cela. L'autre n'a pas compris cela. La Bible dit, deux malfaiteurs étaient crucifiés avec Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. C'est ce que dit la Bible. Et frères et sœurs, ce n'est pas par hasard que ces deux malfaiteurs ont été crucifiés avec Jésus-Christ. Ce n'est pas un hasard. C'était l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Si nous lisons dans Ésaïe 53, le verset 12b, donc l'autre moitié du verset 12, il est dit ceci, « Parce que Jésus s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. » Ces deux malfaiteurs étaient des hommes mourants et souffraient des douleurs. C'est ce que dit la parole de Dieu. Les deux malfaiteurs, ils ont vu, ils ont entendu tout ce qui se passait à Golgotha pendant toutes ces heures qu'ils étaient sur la croix. Ils étaient des pécheurs et avaient besoin de pardon de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, comment se fait-il que dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances, l'un est mort dans ses péchés? Ce n'est pas forcément qu'il était pire que l'autre. Ce n'est pas forcément ça. Il n'était pas pire que l'autre. Parce que la Bible dit, tous les deux étaient des brigands, des malfaiteurs, des criminels. Et de l'autre côté, pourquoi l'autre est sauvé? Ce n'est pas non plus parce qu'il était meilleur que l'autre. Rien du tout, frères et sœurs. La seule différence est que l'un a rejeté Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur et a continué à le rejeter jusqu'à sa mort. Et que l'autre s'est repenti, a cru, a imploré la miséricorde de Jésus-Christ et a été sauvé. Voilà la simple différence. La parole de Dieu dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Le monde se moque encore de cette vérité aujourd'hui. Mais cela ne devrait pas nous surprendre, frères et sœurs. Alors ce matin, nous allons considérer trois points. Le premier point, le brigand au cœur endurci. Le deuxième point, le brigand au cœur repentant. Et le troisième point, la promesse et l'assurance du salut. Le premier point, c'est le brigand au cœur endurci. Dans le français, on dit le larron, malfaiteur, criminel, c'est la même chose. Donc, le brigand au cœur endurci. Ces malfaiteurs, comme nous l'avons dit, n'étaient pas différents de quiconque dans ce monde qui ne connaît pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu que ceux qui étaient à Golgotha, les passants, les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens, se moquaient de Jésus. Et tous ont mis en doute la divinité de Jésus. Et tous ont mis en doute la royauté même de Jésus-Christ. Nous pouvons lire cela dans Matthieu, versets 27, 39 à 42. Ne cherchez pas, je vais lire pour vous. Matthieu 27, le verset 39 à 42. La parole de Dieu dit ceci. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis les temples et qui le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si les rois d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Voilà ce qui s'est passé à Golgotha, ce que les gens disaient. Ce que les gens disaient. Et dans Luc 23, le verset 39 que nous avons lu, l'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait. Et qu'est-ce qu'il disait, l'un des malfaiteurs? Ne tue pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Cet homme a passé ses derniers instants à nier que Jésus est le Messie, que Jésus est le roi. Il a passé tout son temps à blasphémer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Certains peuvent dire que oui, qu'il suivait simplement le comportement de la foule, parce que la foule disait ainsi, comme nous l'avons lu dans Matthieu, qu'il suivait le comportement, l'attitude de la foule. Mais frères et sœurs, nous pouvons dire que son cœur était tellement endurci par le péché qu'il était incapable de comprendre que celui qui était plus près de lui, celui qui était à ses côtés, c'était Christ, le Messie, le Sauveur du monde, celui qui pardonne le péché. Il était incapable de comprendre ça parce que son cœur était endurci par le péché. Vous savez, même aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prennent en vain le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils admettent, ils acceptent bien qu'il y a un Dieu, mais ils vivent comme si ce Dieu n'existait pas, et ils refusent de croire en Jésus-Christ pour leur salut, comme ce brigand au cœur endurci. Et ces gens aujourd'hui, ils ont toujours une objection, une excuse pour expliquer pourquoi ils ne veulent pas croire en Jésus-Christ? Pourquoi ils ne peuvent pas? Non seulement ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas aussi croire en Jésus-Christ. Pourquoi ils disent cela? Pourquoi ils réfléchissent comme ça? Parce que dans leur tête, dans leur raisonnement, dans leur vie est centrée sur les si. Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il si? Si Dieu est amour, pourquoi il y a ceci? Si Dieu est miséricordieux, pourquoi il a permis cela? Et c'est exactement, frères et sœurs, ce qui s'est passé à Golgotha. Nous lisons au verset 37 de l'évangile de Luc, chapitre 23. Nous lisons ceci. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Nous voyons les si. Matthieu 27, le verset 24. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. C'est toujours la même chose comme les gens raisonnent aujourd'hui. Ceux du monde. Et dans Matthieu chapitre 27, le verset 40. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Il y a toujours ceci. Leur raisonnement est centré sur le si. Oui, cet homme s'est adressé à Jésus, mais sa demande était différente de celle de l'autre brigand. Voici ce qu'il dit. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. C'est ce qu'il dit au verset 29. Il voulait que le Seigneur le fasse descendre de la croix et continuer à vivre sur cette terre. Il voulait qu'il soit soulagé de sa souffrance physique uniquement. C'est ce qu'il voulait, pas autre chose. Il était beaucoup plus préoccupé, intéressé que Jésus réponde à ses exigences au lieu de confesser ses péchés et croire en Jésus-Christ. Et c'est dommage aussi que des fois nous voyons certaines personnes qui viennent au Seigneur pour que le Seigneur réponde à leurs exigences perso, personnelles. Que le Seigneur leur soulage de quelque chose au lieu de confesser leurs péchés et de croire en Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. C'était l'attitude de ce brigand au cœur endurci. Et il a décidé de finir sa vie comme il a vécu, sans Dieu. Il est mort dans ses péchés, sans aucun sentiment de culpabilité et incrédule comme il a vécu. Et c'est triste, frères et sœurs. Le deuxième malfaiteur, le brigand au cœur repentant. La Bible dit que, au départ, les deux malfaiteurs se moquaient et insultaient le Seigneur. Mais quelque chose s'est passé pendant ces premières heures sur la croix. Quelque chose attira son attention et révéla dans son cœur que Jésus-Christ est le Messie. Et Jésus-Christ, c'est lui qui pardonne les péchés. Et il y a un certain nombre de choses qui ont touché son cœur. D'abord, ce brigand au cœur repentant, il a entendu Jésus dire à propos de ceux qui le maltraitaient, ceux qui le crucifiaient. Il a entendu Jésus dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ce brigand a entendu cela. Et il a certainement vu aussi l'inscription qui était au-dessus, sur la croix de Jésus-Christ, qui indiquait le motif de sa condamnation. Jésus, roi des Juifs. Il a vu cette inscription. Et concernant cette inscription, je pense qu'on ne va pas revenir là-dessus parce que notre pasteur nous a prêché là-dessus, déjà il y a quelques mois, je crois, sur l'inscription qui était sur la croix de Jésus-Christ. Et en lisant cette inscription, Cela l'a fait réfléchir. Cela l'a fait réfléchir, certainement. Et pas seulement cela. Ce brigand au cœur repentant, il a observé aussi le comportement de Jésus-Christ. Il a observé comment Jésus-Christ s'est comporté pendant toutes ces heures sur la croix, malgré les injures, malgré les moqueries, malgré la douleur, malgré la souffrance. Cet homme a observé cela. Peut-être il s'est dit en lui-même, comment un homme qui souffre, les gens qui l'insultent, qui l'injurent, qui le maltraitent, qu'il puisse dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a observé l'attitude de Jésus-Christ. Et cela a touché son cœur. Et à un moment donné, toutes ces injures, ces insultes contre le Seigneur étaient devenues une source de douleur pour lui. Tout cela était devenu insupportable pour lui. Il ne pouvait plus supporter cela. Alors, frères et sœurs, pour vous, posons-nous cette question alors. Comment savons-nous qu'un changement s'est produit dans sa vie et que son cœur n'était plus le même? Comment savons-nous cela? Eh bien, frères et sœurs, nous pouvons citer quelques preuves de la grâce de Dieu qui a transformé son cœur, d'après la parole de Dieu, d'après ce texte. Nous pouvons citer quelques preuves. Pas toutes, mais quelques-unes. Premièrement, Premièrement, cet homme s'inquiète au sujet de la méchanceté de l'autre brigand qui continue d'insulter le Seigneur. Alors il lui dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Il s'inquiète de cette méchanceté, il dit, mais ce n'est pas possible. Il se retourne et dit à l'autre, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Déjà, il appelle Jésus-Christ Dieu. Il appelle Dieu, c'est que dans son cœur, il y a eu quelque chose qui s'est passé déjà dans son cœur. Il appelle Jésus Dieu, ne crains-tu pas Dieu? Lorsque vous commencez à vous soucier des âmes des autres, c'est une preuve que Dieu a fait une œuvre de grâce en vous, dans votre cœur. C'est une preuve que Dieu a travaillé votre cœur. C'est la preuve d'un changement de cœur. Ce brigand n'avait plus peur des principaux sacrificateurs, des scribes, des anciens, des anciens. Parce que, qu'est-ce que les hommes peuvent lui faire? C'était un mourant. Il n'avait plus peur de ces principaux sacrificateurs qui étaient là. Il ose dire devant tout ce monde, ne crains-tu pas Dieu? Vous savez, autant craindre Dieu que les hommes. Autant craindre Dieu et que les hommes. Et Luc chapitre 12, le verset 4 à 5, nous lisons ceci. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la Géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Et c'est ce que ce malfaiteur a fait. Il n'avait plus peur des principaux sacrificateurs qui les empêchaient de suivre Jésus, de reconnaître Jésus comme le Messie. Il a réussi à hausser la voix devant tout ce monde-là et dire à son compagnon, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subit la même condamnation. Deuxième preuve que nous pouvons citer, il reconnaît son péché et accepte sa culpabilité. Il dit au verset 41, « Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il reconnaît qu'il est coupable devant le Dieu saint et qu'il a péché contre le Dieu juste. Et comme l'a dit notre frère ce matin au début du culte, il n'a pas minimisé son péché. Il n'a pas esquivé son péché. Il n'a pas cherché des excuses pour ce qu'il avait fait. Mais il reconnaît son péché, qu'il était coupable. Il a regardé en arrière à travers sa vie et s'est rappelé de ses actes criminels qui l'ont conduit jusqu'à Golgotha, jusqu'à la croix. Admettre que vous êtes un pécheur, frères et sœurs, est la première étape de la repentance pour venir à Jésus-Christ. Reconnaître son péché, ne pas l'esquiver, ne pas le détourner. Reconnaître son péché, c'est un signe d'humilité. Lorsqu'une personne dit que j'ai péché, vous savez, il y a dans le monde d'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui voient clairement leur propre péché. Souvent, quand on discute, vous posez des questions. Ah oui, mais si je fais ça, mais c'est pas de ma faute. Hein. C'est parce que j'avais pas du travail, c'est pour cela que j'ai volé. Parce que j'étais souffrant, c'est pour ça que je fais ceci. Ou parce que c'est l'autre qui m'a poussé, c'est pour cela que je fais ceci. Aujourd'hui, c'est toujours le péché, les gens, certaines personnes, pas tous, mais certaines personnes ont du mal à reconnaître leur péché, à avouer leur péché. Et ils disent toujours, si j'ai péché, c'est la faute des autres. C'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Mais ces malfaiteurs, ils reconnaissent son péché. Il dit, pour nous, c'est justice. Pourquoi c'est justice? Parce que nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui-là, celui qui est plus près de nous, lui, n'a rien fait de mal. Frères et sœurs, ayons ce courage-là de reconnaître nos péchés devant le Seigneur, comme l'a fait ce malfaiteur. Troisième preuve, frères et sœurs, du changement de vie, du changement de cœur de cet homme, il fait une confession de l'innocence de Dieu. L'innocence de Christ. Il confesse de sa bouche que Christ est innocent. Il n'a rien fait. Comme nous l'avons vu au verset 41. Celui-ci n'a rien fait de mal. Il confesse Jésus-Christ et l'agneau de Dieu sans péché. Il reconnaît que leur condamnation est juste, qu'ils étaient coupables et obtenaient ce qu'ils méritaient. Mais ce n'était pas le cas pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il a reconnu l'innocence de Jésus-Christ. Vous savez, si on peut faire un petit pas en arrière, frères et sœurs, Pilate et Hérode aussi, ils ont reconnu l'innocence de Jésus-Christ. Si vous lisez dans Luc chapitre 23, le verset 15 et le verset 14 et 15, Luc 23, 14 et 15, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? À partir du verset 14 ou à partir du verset 13, Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit, vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Et voici, cet homme n'a rien fait qu'il soit digne de mort. Le brigand sur la croix a reconnu que Jésus-Christ est innocent. Pilate l'a reconnu que Jésus-Christ est innocent. Hérode a reconnu que Jésus-Christ est innocent. Et ça, pour un malfaiteur qui reconnaît que Christ est l'agneau de Dieu sans péché, c'est quelque chose de merveilleux. C'est que son cœur a été transformé. Son cœur a été touché par Jésus-Christ. Et la quatrième preuve du changement d'attitude ou changement de cœur de sa transformation, ces brigands expriment sa foi en Jésus-Christ pour les saluer. Il exprime clairement. Il dit à Jésus-Christ au verset 42, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Ça voudrait dire qu'il croit que Jésus-Christ est roi et qu'il va régner bientôt. C'est ça que ça voudrait dire. Il reconnaît que Jésus-Christ est roi et qu'il va régner bientôt. Il est conscient qu'il vivrait et que Jésus-Christ vivrait aussi. Il croit au pouvoir de Jésus de sauver les pécheurs. C'est ça que ça signifie, frères et sœurs. Il croit que Jésus a le pouvoir de sauver les pécheurs, de pardonner les péchés. Comme l'ange l'avait annoncé à Joseph, Marie enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, souviens-toi de moi. Ce brigand demande la grâce au Seigneur de prendre part à cet héritage incorruptible réservé aux enfants de Dieu. Le monde l'a regardé sur la croix et le monde a dit qu'il obtient ce qu'il mérite. Qu'avait-il à offrir à Dieu? Il allait simplement mourir. Mais Jésus, dans son grand amour, l'a sauvé. Jésus, dans son grand amour, l'a sauvé. Voilà, frères et sœurs, la preuve que le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ, par grâce, et non par les œuvres. Et non par les œuvres. Le temps de ces brigands sur la croix était très court, mais c'était du temps très bien utilisé. Comme on dit en termes économiques, il a bien rentabilisé son temps, ce petit temps qu'il a passé sur la croix. Mais nous qui avons beaucoup de temps devant nous aujourd'hui, frères et sœurs, comment nous l'utilisons? Est-ce que nous rentabilisons ce temps que nous avons pour la gloire de Dieu? Ou nous utilisons ce temps-là pour autre chose qui ne donne pas gloire au Seigneur? Oui, cet homme mourant n'a jamais été baptisé. Parce qu'il n'a pas eu le temps de se faire baptiser. Cet homme mourant n'appartenait à aucune église locale, ni Saint-Denis, ni Sarcelles, ni Bordeaux, ni Lille, rien du tout. Il n'appartenait à aucune église locale. Mais Dieu lui a fait grâce, frères et sœurs. Dieu lui a fait grâce. Oui. Le baptême en lui-même ne sauve pas. Le baptême en lui-même ne sauve pas. Parce que la Bible dit dans Éphésiens, chapitre 2, le verset 8 à 9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si c'était par les œuvres, ces brigands n'allaient pas être sauvés. Il n'a pas eu le temps de donner sa dîme. Il n'a pas eu le temps de donner ses offrandes. Il n'a pas eu donc le temps de visiter les malades. Mais Dieu l'a sauvé. Il n'a pas eu le temps de faire aucune œuvre. Mais Dieu l'a sauvé. C'est pour dire, si on peut le répéter, que le salut, frères et sœurs, s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Mais pour nous qui avons le temps aujourd'hui, Nous devons obéir à l'ordre du Seigneur Jésus-Christ, comme il est dit dans Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous devons obéir à cette recommandation, parce que nous avons le temps devant nous. Mais lui n'avait pas ce temps-là, frères et sœurs. Et le dernier point, frères et sœurs, c'est la promesse et l'assurance du salut. Sur la croix, Jésus était plus préoccupé pour les besoins des autres que par lui-même. Lui-même aussi souffrait des douleurs, comme les autres, mais il était beaucoup plus préoccupé pour les autres, entre guillemets, oubliant même sa propre souffrance physique et spirituelle aussi. Parce que, imaginez, un Dieu qui est saint, qui puisse prendre sur lui tous nos péchés. Et plus loin, vous verrez, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est terrible. Quelqu'un, un Dieu saint, puisse porter nos péchés. Dieu l'a fait devenir péché pour nous. C'était une souffrance horrible pour lui. Mais malgré cela, il était beaucoup plus préoccupé pour les besoins des autres, pour notre besoin, afin de nous accorder le salut, la vie éternelle. Même souffrant de douleurs, Jésus-Christ accomplit son œuvre de salut pour les pécheurs. Le Seigneur n'a pas dit à ce brigand, c'est trop tard pour toi, même si tu me dis, souviens de moi quand tu viendras dans ton royaume. C'est trop tard pour toi. Christ n'a pas dit cela à ce brigand. Au lieu de cela, Jésus-Christ regarda sa foi. Christ a regardé sa foi. Il pardonne ses péchés et lui offre cette belle promesse de salut. Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Nous voyons l'amour, la volonté, la miséricorde et la bonté de notre Seigneur de sauver les pécheurs. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Jésus a dit à ses disciples, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Et sur la croix, Christ a mis en pratique ce qu'il avait enseigné à ses disciples. Il a prié pour le salut de ceux qui se moquaient de lui. Il a prié pour le salut de ceux qui l'injuriaient. Il a intercédé pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il n'a pas répondu aux moqueries, aux injures. Bien que ce n'était pas agréable pour lui d'entendre tout cela, mais il a manifesté son amour, sa bonté, sa miséricorde. Le prophète Isaïe a dit, il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Mais bien-aimés, si le Seigneur n'a pas hésité à sauver un malfaiteur mourant, combien plus il est prêt à sauver des pécheurs comme vous et moi. Aujourd'hui, maintenant qu'il est ressuscité des morts et qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour nous. Le salut que Jésus offre a lieu à la croix et à travers la croix et non en dehors de la croix. Et non en dehors de la croix. Les deux malfaiteurs se sont adressés à Jésus. Le premier l'a fait par incrédulité, le second l'a fait par la foi. Il a reconnu sa culpabilité et s'est repenti de ses péchés. Il a crié à l'innocence de Jésus et a exprimé sa foi en Christ. Et le Seigneur lui a accordé sa grâce, sa miséricorde en le sauvant de ses péchés. Ce Seigneur Jésus-Christ n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Car Jésus-Christ sauve encore aujourd'hui parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours.